Bonsoir, bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission « Et si on s'écoutait ?». Nous sommes le jeudi 4 avril 2024 et nous serons en direct ensemble de 18h à 19h. L'émission, elle, sera diffusée vendredi et le podcast, lui, sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Dans cette émission « Et si on s'écoutait ?», nous recevons des acteurs de la ville de Marseille qui œuvrent pour l'écoute dans la société Le Bien Vivre Ensemble. Il peut s'agir d'un acteur culturel, artistique, associatif ou même sportif. L'idée est d'illustrer par l'action ce que veut dire s'écouter, créer du dialogue dans la société. On explore un autre pan de l'écoute, celle des autres et comment cohabiter en fonction des désirs de chacun dans le monde d'aujourd'hui. Ce soir, avec nos invités, nous allons parler passion pour la musique, industrie musicale rap, entrepreneuriat, business, amitié, culture urbaine, collectif et de Marseille, bien sûr. Je suis Chloé Lenders et je suis accompagnée de Marion Milsan et de Marion C en studio et de Sidi en régie. Bonsoir les filles.
Salut. Bonsoir.
Et nous sommes ravis de recevoir ce soir La Firme, basée à Marseille. Donc La Firme qui a pour mission de conseiller les marques dans la mise en place des campagnes digitales comme le placement de produits dans les clips d'artistes renommés. Bonsoir les garçons.
Bonsoir.
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 Merci d'avoir honoré notre invitation. Donc vous êtes les trois cofondateurs de La Firme, Tariq Chakor, Zino Saïd et Gilson Soares.
Soares,
pardon. Comment vous allez ce soir?
Très bien. Ouais. Et vous?
Très bien aussi, ouais, on est très contents de vous recevoir. Et avant de rentrer dans le vif de l'émission, on voulait savoir ce que vous inspirez le titre de notre émission et si on s'écoutait. Est-ce que ça vous inspire et si oui, en quoi?
Ben évidemment, c'est une philosophie de vie, c'est une manière de voir les choses. Et si on s'écoutait, c'est une proposition vers des lendemains qui chantent. C'est beau ou pas?
C'est poétique, on attaque l'émission en poésie.
Mais c'est une invitation à faire une pause, surtout, et à prendre le temps de s'écouter. Et ouais. On trouve ça super.
Ouais. Et merci pour l'invitation, on en profite aussi, on en profite.
Et oui, on va à travers La Firme découvrir comment on peut s'écouter, qu'est-ce que ça veut dire s'écouter en société à Marseille, comment vous arrivez à transposer tout ça via La Firme. Et puis pour commencer, on peut peut-être vous demander de vous présenter chacun individuellement, vos parcours, d'où vous venez, avant de parler de La Firme, de parler de ses cofondateurs.
Honneur aux artistes.
Allez, Gilson.
Ben, je me présente, Soares Gilson, cofondateur de l'agence La Firme, ancien artiste du groupe Révolution Urbaine, avec mon ami Zino qui est juste là. 10 ans d'expérience dans l'industrie de la musique, signé dans le label du rappeur Soprano et dans la maison de disques EMI et Warner Music. Et voilà.
Basé à Marseille du coup?
Le label ou la maison de disques?
Le label et la maison de disques.
Le label est basé à Marseille, c'est le label de Soprano,
ouais.
Only Pro, anciennement appelé Street Kids. Et la maison de disques était sur Paris, Warner Music.
Donc, ok.
Voilà. Yes, donc je rebondis.
Alors Zino.
Zino, pareil, cofondateur de l'agence La Firme. J'aime bien dire ex-artiste au service des nouveaux. Et notre posture aujourd'hui, c'est de retranscrire un peu... notre parcours et de savoir le représenter, en tout cas, ou le transmettre aux générations qui suivent, essayer de leur éviter les murs qu'on a pu se prendre. Et voilà, tu disais 10 ans, mais j'ai presque l'impression que c'est 15 ans. On ne voit plus le temps passer, mais il y a presque 15 ans d'expérience musicale entre les périodes où on était signé. Alors avant Soprano, je peux faire un bref... récapitulatif, mais on avait été signé avant par Marc de Bombattac, qui est l'une des personnalités dans le monde de la musique qui a découvert Jams et Booba à l'époque. Donc nous, on avait 17 ans, on savait pas trop quoi faire entre l'école et aller en province pour faire des radios comme aujourd'hui. Et voilà, on a décidé de faire de la musique depuis l'âge de 17 ans et aujourd'hui, on a décidé de se reconvertir au service des artistes d'aujourd'hui. Voilà.
Et du coup, le rap a toujours fait partie de votre vie.
Ouais.
Ouais.
On a fait d'autres choses. Hein. On a développé des marques de textile. On a organisé des parties de poker privées, pas très légales. on a fait toutes sortes de choses, mais c'est vrai que le rap était un élément central finalement dans notre vie. Et voilà, on a développé, j'ai envie de dire, un réseau d'artistes où on connaissait par exemple Jules à l'époque où il s'appelait Giuliano et où il n'était pas connu. Donc on a traversé un peu la même période de difficultés ensemble. Aujourd'hui, ça nous simplifie nos échéances, notre façon de communiquer avec ces artistes-là. Et voilà, aujourd'hui, la firme sert de traducteur pour les marques, pour les entités qui souhaitent communiquer avec des artistes dans lesquels il y a finalement très peu de cadres. Et voilà, on se positionne vraiment comme des traducteurs ou des encadres, je ne sais pas, des facilitateurs.
Vous allez nous en parler plus. Voilà. Tariq, ton parcours
Et moi, Tariq Chakor, moi, je ne suis pas ancien artiste, moi je suis ancien fan. Enfin, je suis fan de Révolution Urbaine. À la base, je les écoutais, je vous l'avoue, aujourd'hui, en direct. Donc moi, à la base, c'est vraiment c'est un autre parcours. Moi, aujourd'hui, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université, donc enseignant-chercheur à la fac d'éco et de gestion à Colbert, pour celles et ceux qui connaissent. J'ai fait un parcours vraiment d'universitaire et donc j'ai eu mon poste. Et après, parallèlement, vu que je suis un gros fan de rap et plus spécifiquement de rap français, et donc encore une fois auditeur de Révolution Urbaine, de Sopra, de Street Skills, de tous ces acteurs-là, ben, on se connaissait avec Gilson et Zino du centre-ville. Et de fil en aiguille, en discutant, on s'est dit ben, pourquoi pas créer une structure en commun, donc la firme qui existe maintenant depuis bientôt 5 ans. Et donc voilà, c'est un peu cette l'alliance du, je sais pas comment on peut dire ça, du feu et de la glace, de la folie artistique et de la rigueur universitaire. Je suis vraiment dans les formules, je suis très poète.
Tu le vends bien.
Voilà, et donc voilà, aujourd'hui ça donne la firme, encore une fois, un enseignant chercheur et surtout deux artistes. Voilà, c'est un peu notre combinaison originale.
Donc vous êtes rencontrés basé sur en fait cette idée de business que tu avais ou c'est parce que vous étiez amis à la base? Qu'est-ce qui a créé en fait la dynamique?
Ben à la base nous voilà on se croisait assez régulièrement. Moi je connaissais à la base le grand frère de Gilson et donc on se croisait régulièrement dans ce qu'on appelle nous notre triangle magique à nous, Opéra Noir et La Plaine. Donc c'est vraiment le centre-ville de Marseille. On se croisait, on a toujours été dans les écoles de ce quartier, de cette zone-là. Et voilà, on discutait, ils m'ont fait part, on s'est croisés par hasard, c'était en 2019, ils m'ont fait part un peu de leurs aspirations, du fait de se, comme l'a très bien dit Zino, de se reconvertir, de changer un peu de business. Plein de choses ont été faites et de fil en aiguille, encore une fois, on a discuté. Et il y a eu cette opportunité de capitaliser sur le réseau d'artistes, sur la légitimité auprès des artistes. Et donc le côté business, j'ai presque envie de dire, c'est plus Gilson et Zino. Moi, je suis plus le côté, encore une fois, structuration et essayer de cadrer un peu les choses. Et ça existe depuis 5 ans.
On peut rajouter que c'était une période où tu achetais encore tes places de concert.
J'achète toujours mes places de concert.
Et voilà, on t'a dit, on a des invitations. C'est cool d'acheter tout ça, mais tu fais partie du cercle, donc on a des invitations et tu viens avec nous. Et voilà, le but, c'était encore une fois, la firme au départ, c'est une idée, donc c'est rien de précis, c'est quelque chose de très vague. J'ai envie de dire, les membres de nos familles ne savent pas vraiment ce qu'on fait.
Encore aujourd'hui,
quand tout ça sur la table et tout, mais vous faites quoi et tout. Ou même certains artistes qu'on a rencontrés récemment, de très grands artistes qui nous reposent la question, mais vous faites quoi vraiment? Et c'est vrai que c'est difficile à définir, puisqu'au départ, on est d'ex-rappeurs au service des rappeurs, ok. Et ça s'est développé de fil en aiguille. On s'est retrouvés à bosser sur des projets en lien avec le cinéma.
Parce qu'on imagine que le projet initial a évolué et qu'aujourd'hui, vous avez développé beaucoup d'autres compétences et domaines d'expertise. Quoi.
Exact, sachant qu'on partait, j'aime bien dire, de zéro en termes d'expérience. Et je ne veux pas dire 100, mais de 100 en termes de réseau. Voilà, on avait du réseau, on avait l'avantage de pouvoir contacter Jules, par exemple, en un coup de fil. Mais au départ, j'aime bien dire qu'on ne connaissait pas la différence entre le hors-taxe et le TTC.
Vous partiez de un peu loin.
Ouais,
mais Tariq, toi, t'étais là pour
De loin aussi, un peu peut-être sur ce point-là, peut-être un peu moins loin, mais quand même, il y avait de l'apprentissage, il y avait un apprentissage sur le tas qui s'est fait.
On peut rajouter que je pense que on a appris du coup par la pratique et en connaissant vraiment rien de théorique, et finalement, c'est très formateur puisque ensemble, je trouve qu'on a très vite évolué et aujourd'hui, on arrive à tenir des conversations avec des personnalités importantes du milieu de l'influence ou des directeurs de marque, des personnalités politiques ou autres. Et voilà, finalement, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare à part certains codes qui maîtrisaient avant nous. et qu'on essaye de maîtriser aujourd'hui.
Ça a mis combien de temps entre l'idée de « Ok, on a cette idée-là de la firme », d'ailleurs peut-être qu'avant ça c'était peut-être pas la firme, et « Ok, on la met en pratique et on commence à se vendre ».
Ça c'est Zino Gilson hein, de dire, pour moi je dis souvent que ce sont vraiment les deux, ils sont à l'initiative de cette idée, même du nom « La firme », je suis venu un tout petit peu après, mais
Gilson. Ça a combien de temps environ, peut-être avant qu'on crée la firme, peut-être 2 ans avant. À la base, on avait une marque qui s'appelait Mademoiselle Veuve. Et on s'est très vite rendu compte que ça allait être compliqué quand même de tenir la barque, de créer une marque. Et surtout, avec le peu de production qu'on pouvait commander. Une marque de textile, qui s'appelait Mademoiselle Veuve. On faisait des commandes en Chine. Et 200 t-shirts à l'époque, c'était pas grand chose. Donc assez souvent, on se retrouvait avec des commandes ou des tailles qui n'étaient pas les bonnes tailles. Les producteurs souvent ne nous respectaient pas. Ils nous envoyaient des. Une fois, on a commandé des casquettes. Si je dis pas de bêtises, on s'est retrouvé avec des casquettes pour enfants.
comme dans La Vérité si je mens.
Comme dans La Vérité si je mens. Donc c'était assez compliqué. Et puis pour pouvoir faire parler de la marque, c'était au tout début de Instagram, on s'est rendu compte qu'il y avait des pages qui mettaient en avant les marques. On les payait combien ? 5 euros ?
5 euros,
c'était 5 euros.
C'était le début de l'influence.
C'était le début de l'influence.
Les belles histoires aussi, c'est une histoire de timing des fois. Peut-être que là, il y a eu un bon timing pour lancer votre business.
C'est ça. Et petit à petit, est venu les débuts de l'influence. On a vu qu'il y avait aussi des agences qui s'occupaient des influenceurs et qui commençaient aussi à faire des placements de produits sur ces réseaux. Et on s'est regardé, on s'est dit, en réalité, les influenceurs à l'heure actuelle ne vendent que leur image et ils ont que ça à vendre, alors que les artistes, ils ont quand même un public, des personnes qui les suivent et des personnes qui leur font confiance. Ouais. Et on s'est dit, pourquoi pas être le relais entre les marques et ces artistes-là, et leur proposer des placements de produits et des campagnes digitales.
Ce qu'on peut rajouter, c'est que donc, il parle des prémices d'Instagram, et pour moi, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, puisque c'était finalement un pont entre de très grands artistes qui avaient accès à une boîte de réception dans leur poche. Et donc, on tentait des messages, mais à n'importe qui, genre Cristiano Ronaldo, Snoop Dogg.
Ambitieux, audacieux.
Voilà. Non, mais en fait, on savait qu'il n'y avait pas de règles et on savait que chacune de ces personnalités gérait eux-mêmes leur Instagram. Et comme c'était les débuts, donc il n'y avait vraiment pas de règles. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, on envoie un message à tout le monde, quoi. Et on y va au culot. Et le but du jeu, ce sera de créer un coup de cœur. Et au final, on a eu des belles surprises. On a eu des... je ne saurais plus vous dire. J'ai eu la femme de Booba qui m'envoie l'adresse de Booba pour envoyer des vêtements à Booba. Donc j'ai encore son adresse. On avait une célébrité, Buddy Winkle, un peu âgée, mais qui faisait déjà des millions de vues.
Des footballeurs aussi.
On a eu des footballeurs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu une visibilité incroyable. Et on a découvert l'influence quand on a vu qu'il y avait des pages. Une page qui, je me rappelle, s'appelait... Bourgeoisie Culture, c'était un Hollandais, et pareil, on l'a contacté, il partageait que des choses un peu lifestyle. On lui a dit, ça te dit de partager nos t-shirts et tout? Il a dit oui, vous me payez? On lui a dit combien? Il a dit 5 euros la publication. C'est incroyable, parce que ça n'existe plus, hein, 5 euros la publication, on est d'accord. 5 euros la publication, on lui a dit ok, on t'en prend 10.
Juste pour un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est combien la
publication? Ça aurait été 5 000 euros.
Ouais, 5 000 euros. Surtout qu'il avait une grosse communauté.
Voilà,
quand même,
communauté.
Après, ça dépend l'artiste, s'il a une grosse communauté ou pas.
La communauté, l'engagement, l'impact.
Là, c'est plus du placement de produits sur une page avec des millions d'abonnés. À l'époque, en tout cas comme c'était les débuts, personne ne savait qu'on pouvait payer pour ça. Donc nous, en testant, finalement, on s'est mis d'accord avec ce gars-là, et à 5 euros la publication, c'était incroyable, parce qu'on faisait une publication, derrière on avait genre 50 commandes, mais dans le monde entier. On avait des commandes, on vendait des vêtements dans le monde entier, mais pas en France, tu vois. On recevait des commandes d'Albanie, des commandes des États-Unis, des footballeurs qui passaient commandes.
Et à Marseille ?
Des commandes ?
À Marseille, en physique.
Ouais, en physique. Ouais. Ben, on avait fait du dépôt-vente.
Ouais, dans plusieurs dans petites boutiques. Mais finalement, voilà, ça reste quand même quelque chose de très manuel et je pense qu'on peut le dire. On vient d'une famille de commerçants.
C'est ça.
Ouais, donc c'était, c'est cool, mais ça reste encore limité. Et on se disait qu'aujourd'hui, avec la force de frappe d'Internet, on avait la capacité de se déployer, de faire de plus grandes choses sans forcément créer quelque chose de palpable. Et voilà, donc l'idée de la firme, après Mademoiselle Veux, ça a été de trouver un business model avec une connexion Wi-Fi et un smartphone.
Comme quoi, c'est des entrepreneurs qui nous écoutent, l'audace, il en faut aussi pour se lancer, ça fait partie du parcours, quoi.
Je pense.
Ouais. Ouais.
Comment vous les rencontrez là maintenant ? Comment vous les choisissez ? Justement, les artistes, les personnes avec qui vous collaborez. Est-ce que c'est un choix
Généralement, il y a deux grands types de configurations. Au début, on essaie de se présenter, de se faire connaître auprès des artistes, même s'il y a ce réseau historique, etc., et surtout auprès des marques. Maintenant, c'est plus les artistes qui viennent, qui nous disent « Bon, les gars, vous n'avez pas une marque pour moi, vous n'avez pas un partenariat pour moi. » Là, on est en train de faire un partenariat avec une belle marque de chaussures. On a le droit de citer, non ? Je ne sais pas. Bon.
Avec Adidas, c'est Nike.
Donc la première. Et typiquement, donc nous on publie évidemment des stories, des posts qui valorisent cette campagne-là, parce qu'il y a toute une stratégie de communication de la part de la marque. Et là, on a des artistes qui, comme on dit, qui slide dans nos DM, qui glisse dans, qui nous dit les gars, qui nous envoie des messages privés en disant et moi ma paire, etc. Donc parfois là du côté artiste, j'ai presque envie de dire qu'à l'heure actuelle c'est pas le plus difficile parce que de par le cœur de notre activité, on leur apporte des sources de financement, des nouvelles sources de financement, des partenariats, une visibilité, une marque, on développe un peu leur image en l'associant à une marque. Donc ça c'est du côté des artistes, c'est pas le plus difficile, même si encore une fois l'histoire de la firme c'est vraiment basé sur ce réseau historique de Zino et Gilson. Voilà, il a parlé de Giuliano.
Moi, je voulais rajouter un truc sur ce que tu dis.
Ouais.
C'est vrai qu'on leur apporte du business aujourd'hui aux artistes, mais pas que.
Ouais, et
moi, je trouve là où ça fait sens aujourd'hui avec le thème de votre émission, le titre surtout, c'est qu'on est aussi une oreille attentive pour certains artistes qui, eux, sont en développement, n'ont pas véritablement de business finalement à nous apporter aujourd'hui, mais on se positionne en tant que garant de leurs intérêts. Et je sais que Gilson récemment accompagne un artiste dans ses besoins juridiques. Voilà, et il se sert très bien de l'intelligence artificielle en guise d'avocat. Et voilà.
Ne donnons pas tous les tips.
Non, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les artistes aujourd'hui, on l'a vécu, l'administratif, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est vraiment quelque chose qui. On voit ça comme quelque chose d'insurmontable. C'est du charabia, c'est du chinois, c'est ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on essaye de leur faire comprendre que. En relisant vos contrats, voilà,
vous serez... En les lisant même parfois.
En les lisant tout court.
En les lisant tout court. Voilà, ils ne les lisent pas. Ils signent sans lire. Et nous, vraiment, on se positionne au démarrage de leur carrière et on les accompagne dès le début, dans le but, évidemment, plus tard, de pouvoir collaborer si ça fonctionne pour eux. Mais dans un premier temps, c'est en toute bienveillance. C'est vraiment pour que ça fonctionne pour eux. Mais après, on a l'impression de pouvoir créer un cercle vertueux qui ferait qu'on les a aidés. Ils deviennent connus. Bah, ils décident qu'on bosse pour eux. Et voilà, ça continue. Et
du coup, pardon.
Ah, non, c'est bon.
Les clients, en fait, c'est les artistes ou... Non, les artistes, c'est les marques, en fait.
Les clients, ce sont les marques.
Ouais, les clients, ce sont les marques.
Okay, ou alors, plus largement, les institutionnels, les assos, voire même les politiques. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment... On se positionne, comme ça a été dit, comme des traducteurs à l'intersection, ou plutôt on met en relation d'un côté tout ce qui est artiste au sens large. On a beaucoup parlé des rappeurs, mais ça peut être des créateurs de contenu ou influenceurs, comme on les appelle, des humoristes, des sportifs d'un côté qui vont un peu porter, valoriser une marque, donc développer leur image. Donc là, c'est plutôt des personnes à qui on va reverser une partie évidemment du partenariat. Et de l'autre côté, là, par contre, nos clients, ce sont les marques. Ce sont les marques, les annonceurs. Ça peut être autant des marques, bien évidemment, qui vont être intéressées par un public qui est touché par les artistes, etc. Donc quand on... Généralement, voilà, on a des marques avec qui on bosse, des marques soit de restauration rapide, soit de vêtements streetwear, il y a de tout, vraiment. Il y a des très grosses marques de téléphonie mobile, des applications, des marques de maquillage parfois. ou de bien-être prêt à porter. Et donc vraiment, nous, notre idée, c'est d'essayer d'aligner, d'avoir une certaine forme de cohérence entre l'annonceur et l'annonceur, le talent créateur de contenu humoriste sportif mobilisé et le public visé. Donc nous, on a vraiment ce rôle-là de mise en cohérence, d'alignement et de mise en relation.
Ouais, je me demandais, est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord assez facilement, justement, et est-ce que vous avez des valeurs un peu... immuable, c'est-à-dire voilà, vous choisissez quand même.
Là, moi, souvent à cette question, je réponds toujours un peu la même chose. Il y a des questions d'éthique, des questions de valeurs qui nous animent, mais il faut assumer le fait qu'à une époque, notamment au tout début de la firme, on a bossé avec des marques, notamment il y a tout le débat autour des paris sportifs. Aujourd'hui, nous ne bossons plus avec ces annonceurs, mais il y a souvent cette logique, cette réflexion entre est-ce que je vais faire tourner ma boîte et accepter notamment des annonceurs qui ont beaucoup de budget, parce que oui, on le voit à la télé, notamment à la mi-temps des matchs de foot, c'est ce type d'annonceurs qui vise une clientèle très spécifique, et donc d'un côté on a la réflexion, on va dire, de l'entrepreneur qui va se dire je dois faire tourner la machine, et de l'autre côté le côté responsabilité, est-ce que l'on va bosser quand on sait que potentiellement l'impact que cela pourra avoir, notamment pour certains jeunes publics, notamment un peu plus fragiles, entre guillemets. Certains disent que les paris sportifs, c'est un peu le PMU de nos papas. Voilà, c'est un peu le nouveau PMU. Donc, on a une responsabilité par rapport à ça. Et aujourd'hui, bien sûr... c'est des choses qui nous animent, et on essaie de bosser, d'avoir un impact économique, mais également social, sociétal. C'est pour ça qu'on bosse aussi avec des assos, on bosse aussi avec des... On sensibilise, ça c'est plus récent, mais à la santé mentale dans l'industrie musicale rap, parce que c'est une vraie problématique, il y a encore de vrais tabous autour de ça. Et donc progressivement, en se développant, on se rend compte qu'on a un rôle économique, financier, enfin voilà, une activité économique financière, mais également une responsabilité au niveau social et sociétal.
Et aujourd'hui, vous accompagnez du coup combien d'artistes à la firme ?
On n'a pas réellement de liste d'artistes qu'on accompagne.
Okay.
C'est selon les demandes.
Selon les demandes,
que ce soit auprès des marques ou les artistes qui viennent taper à notre porte, comme l'a dit Zino tout à l'heure. Donc il n'y a pas vraiment de liste d'artistes.
Il faut savoir qu'on n'a pas d'artistes en exclusivité.
Ouais. C'est ça,
voilà, on a pendant un certain temps managé des talents. Je vais laisser Zino en dire deux mots.
Non, moi j'aurais dit qu'il nous appelait à 3h du matin pour nous dire que son poisson rouge était mort.
Ouais. Donc le management.
C'est une vraie histoire.
Voilà, le management. Ouais, il est mort plusieurs fois quand même, son poisson rouge. Mais c'est au bout d'un moment, le fait de gérer en exclusivité des artistes, c'est un vrai travail. Aujourd'hui, on est plus dans la mise en relation, l'accompagnement, le conseil créatif, le suivi, que du management en tant que tel.
Même l'intérêt aussi, c'est de leur laisser la liberté de pouvoir collaborer avec d'autres structures.
Ouais.
Donc nous, on n'a pas vocation à les garder pour nous, surtout qu'à un moment donné, ils doivent aussi remplir leur frigo. Donc sinon, on ne peut pas leur apporter aujourd'hui une certaine attention.
Ouais.
Ils peuvent aller la chercher autre part.
Et vous collaborez, j'ai l'impression que c'est plutôt avec des mecs, non ? Plutôt que des...
Pas que.
Non,
vous avez aussi, il y a aussi des artistes...
Bon, on a travaillé avec Aya Nakamura sur un de ses clips.
Ok.
En placement de produit
avec Samsung. On a travaillé avec Ronisia également.
Ouais. Pour citer une Marseillaise, citer Roxane Peronnec.
Peronnec.
Grosse dédicace à Roxane. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment une super meuf.
C'est pas celle qui est... Non.
Elle est DJ.
Elle fait beaucoup de choses. Là, il faudrait une émission entière.
On l'invitera peut-être.
Mais vraiment, c'est une super... En plus, on était hier... donc, je fais un peu ma pub. On a fait hier une conférence à la faculté d'économie et de gestion autour du rap et de l'entrepreneuriat. Donc voilà, pour dire qu'on n'est pas que dans l'activité purement économique. Il y a aussi l'idée d'organiser des conférences, de sensibilisation, de vulgarisation, de diffusion de certaines réflexions académiques. Et Roxane était une invitée. Elle lui a parlé de son parcours entrepreneurial. Elle est DA, chef de projet, elle a bossé surtout avec l'artiste Zamdan, un artiste marseillo-marocain, Marseillo-Marrakechi. Et donc voilà, c'est vraiment il n'y a pas que des femmes, non, il n'y a pas,
que des hommes.
Et ce n'est absolument pas un lapsus.
Par contre, est-ce que du coup vous pourriez dire que vous avez sélectionné justement des artistes rappeurs plus avec une image rap pour peut-être faire une synergie sur ça, ou ça s'est juste produit comme ça.
Ça s'est produit, je pense, par défaut, tout simplement parce que notre réseau nous permettait cela. Voilà. Okay. Donc, mais de fil en aiguille, on aime bien dire que les rappeurs regardent du foot et les footeux écoutent du rap. Donc on s'est retrouvés en contact avec des footballeurs, pareil des avec comédiens. Des comédiens, des artistes. Au final, le slogan ou la phrase d'accroche de la firme, c'est « Connecting Culture ». Je ne sais pas si Nokia nous entend, mais ce n'est pas eux qui nous ont inspirés. Et voilà, le but du jeu, c'est vraiment de connecter toutes ces cultures. Et on aime bien dire la culture aujourd'hui plutôt que le rap, pour représenter du coup tous ces univers autour desquels on gravite. Et donc, il y a le rap, bien sûr, à la base.
Qui est une musique,
mais pas que. Donc, il peut y avoir des musiques alternatives sur lesquelles on travaille. Il peut y avoir des projets de cinéma, des projets de séries.
Certains parlent de nouvelles cultures populaires. Nous, on n'aime pas trop le terme d'urbain parce que, comme je dis souvent, on écoute du rap dans les campagnes. Ouais. Donc, le dire, c'est de l'urbain, voilà. Donc, c'est quelque chose... En fait, voilà, le culture hip-hop, ça, c'est plus parce que je suis plus âgé de l'agence.
On sent que t'as grandi dans les années 90.
T'as grandi. Ouais, bref. Et donc,
moi
les nouvelles
aussi,
cultures populaires.
J'ai grandi dans les années 90, mais j'avais peut-être pas le même âge.
Ouais, je vais vous laisser.
Gratos,
voilà,
désolé, les
cultures populaires, un peu, c'est vraiment bien plus que de la musique, hein, c'est vraiment des cultures, un lifestyle, une manière de vivre, des valeurs, une culture, vraiment une culture au sens large du terme. Ouais.
On essaye d'être la pieuvre finalement qui va pouvoir réorganiser tous ces beaux mondes les uns avec les autres. Voilà.
Et en la fin, je me demandais qu'est-ce que ça veut dire. Je crois que Jilson, je t'avais entendu en interview, tu disais qu'en argot, ça veut dire mon équipe.
Ouais. Alors la firme, il y a plein de façons d'expliquer le nom la firme. En portugais, c'est comme ça qu'on, dans l'ego, l'argot portugais.
Ok.
C'est comme ça qu'on dit mon équipe, ma famille, ma firme. Et aussi, c'est par rapport au film La Firme. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Okay. Bon, c'est un film.
La firme, le film ou le groupe?
Le film.
Ou les deux?
Le film.
Le film, ok.
Et la
et firme, le groupe aussi.
Le groupe. Il y a le groupe aussi avec Nas, Foxy Brown, qui était produit par Dr. Dre à l'époque, qui est un très très bon album. Je vous invite à aller l'écouter. Et il y a le film La Firme, qui est l'histoire d'un avocat qui intègre un grand groupe d'avocats et qui gère les intérêts des grandes marques ou des grandes industries.
Et qui part de rien.
Et l'idée, c'était d'être, on va dire, les avocats d'une certaine manière des artistes. Donc on représente les artistes, on représente leurs intérêts. Donc
ouais,
c'était ça l'idée. Ouais, c'était ça, exactement. Et l'idée de la firme. Ouais.
Et aussi, on peut ajouter que on s'est simplement dit que dans toutes les interviews un peu business, quand on parle d'une entreprise, on emploie toujours le mot la firme, et on s'est dit que c'était un placement de produit gratuit.
Exactement.
Et
aussi,
à chaque fois, les gens ont l'impression qu'on parle de nous, vous savez, la firme française, etc. on y est toujours, quoi. On est toujours un peu là.
Business jusqu'au bout.
C'est ça, exactement.
Et est-ce qu'on peut dire justement que votre activité principale à chacun d'entre vous, c'est principalement la firme, même si j'imagine que vous avez des choses à côté? Ou est-ce que, combien de pourcentage ça prend de votre journée?
De notre journée?
Pour nous, c'est 100%. Ouais. Pour Gilson et moi,
on
est à 100% dans la firme. Tariq, c'est Batman. le jour, il est prof de fac et la nuit...
Justement, je suis en train de dormir. En fait, je fais des micro-siestes. c'est vraiment... À la base, c'était... la majeure partie, c'était la fac, l'université. Là, c'est quasiment du 50-50. Ce que je dis souvent, c'est que l'avantage, c'est que les rappeurs, le matin, ils dorment. Et donc, ça me permet de caser tous mes cours, tous mes visios, etc. Et généralement, après-midi, je bascule en mode la firme. Voilà, c'est un peu un équilibre... pas facile à trouver, mais pour l'instant ça va.
Cool. Grande capacité d'organisation de Tariq.
Merci.
Parce que toi, Tariq, donc t'es maître de conférence en sciences de gestion.
Exactement.
À l'AMU, t'es entrepreneur, conférencier et animateur de la session aussi.
C'est alors l'animateur de la session, c'est la chaîne Twitch, c'est le média qui a été créé par OnlyPro, on le répète, c'est le label de Sopra, d'Alonso. Donc là, c'est un peu en suspens parce que j'ai dû faire des choix, parce qu'avant tout ce que tu as pu énoncer, je suis un jeune papa. Oui. Donc, en termes de priorité, j'ai ma petite Nour à qui je fais des gros bisous de 9 mois, elle est en train d'écouter l'émission, c'est certain.
donc, tous les soirs.
Voilà, c'est ça. Donc la session, c'est un peu en suspens. Mais l'idée de la session, c'était voilà, ce média sur cette plateforme Twitch, qui est une plateforme donc en direct, hein, c'est un peu la nouvelle télé. Et l'idée, c'était d'accueillir, de recevoir des rappeurs, soit pour des interviews, un peu comme dans cette configuration, soit pour des sessions freestyle. Là, c'est un peu en suspens, mais à partir de la rentrée prochaine, ça peut revenir.
Et toi, Gilson, c'est pareil, t'es ancien rappeur, mais t'es entrepreneur, et t'es aussi manager d'un artiste, non?
C'est ça. C'est ça.
Vous avez tous des doubles casquettes, quoi.
Double, triple, même, des fois.
Ouais. C'est quoi la troisième pour toi, du coup?
La troisième, c'est que je suis en train de monter un studio d'animation assisté par intelligence artificielle, ouais, qui va s'appeler Storytellers.
Qui s'appelle déjà, mais qui est aux
prémices, on va dire, de ce qu'on essaye de mettre en place. Et donc voilà, c'est le prochain projet. Donc pour l'instant, je suis sur la firme, mais j'ai des envies aussi de production, et de production d'animé, surtout. Voilà.
Ok. Et toi, Zino, du coup, t'es entrepreneur et t'as d'autres casquettes.
Ouais, du coup, un peu les mêmes que celles de Gilson. Hein. J'accompagne évidemment Gilson dans son aventure de création de studio. Et alors, d'un peu plus loin, donc c'est lui qui est en lead et moi, je suis un peu plus en backup. Moi, je suis un peu le mec chiant qui va dire pas cette police d'écriture, plutôt ceci, plutôt cela.
Zino connaît toutes les polices d'écriture, il connaît leur nom. Et en lisant, il peut vous dire, et il va pas vous dire Times New Roman ou Calibri. Il va vraiment vous donner des polices très très...
C'est vrai, les polices d'écriture, c'est ma passion.
Ouais, c'est ça.
Et c'est vrai, il y a même des documentaires aujourd'hui que je vous conseillerais sur Netflix, thème.
Excusez-moi, il est premier degré, hein. Là, je le connais.
Sans blague, hein. il y a des vrais documentaires sur le thème des polices d'écriture. Je trouve que c'est hyper important, puisque aujourd'hui, on n'accorde pas assez d'importance à cela, mais je suis persuadé que c'est ce qui contribue à raconter une histoire ou à développer une marque. Et pour moi, c'est central dans n'importe quelle aventure.
Et qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir ces doubles casquettes ou triples casquettes dans vos vies? En quoi ça donne du sens aussi au quotidien? De pas forcément choisir d'être dans des...
Ben déjà, c'est un luxe de pouvoir faire plusieurs choses, de pouvoir faire plusieurs choses qui nous stimulent de différentes manières. Voilà, quand je fais un cours à la fac, ben c'est stimulant d'une certaine manière. De la recherche sur un sujet donné, évidemment, ben ça, c'est épanouissant au niveau intellectuel. Et de l'autre côté, quand un après-midi on se retrouve sur un tournage de clip, quand on se retrouve à discuter avec un rappeur et quand on connaît un peu les coulisses, c'est hyper enrichissant. C'est des choses, des approches, des réalités qu'on n'a pas, enfin, voilà, auxquelles je n'ai pas accès en tant qu'universitaire, mais je vais avoir accès. Donc c'est hyper enrichissant et progressivement j'essaie aussi que ces deux mondes, ces deux univers s'interalimentent. Donc c'est un peu, voilà, essayer dans le cadre de l'université, comme je disais hier à la conférence, c'était aussi essayer de faire discuter ces deux sphères. En invitant le rap à la fac. Donc c'était un peu cette idée de créer des passerelles, et c'est ce qu'on voit là, Connecting Cultures, ce que tu disais Zino, c'est notre baseline, c'est vraiment ça, c'est hyper épanouissant et enrichissant.
Est-ce que vous pensez aussi que le fait que vos profils soient aussi assez complémentaires, ouais, c'est ce qui fait que ça marche?
Ouais, je suis
certain même.
La firme avec trois Zino, avec trois Gilson ou avec trois Tariq, ça donnerait des choses très différentes, mais ça ne marcherait pas. Là, c'est assez complémentaire. Ouais. Ça, c'est cool. Il y a des rapports au temps différents.
On n'est pas sur le même fuseau horaire.
Exactement. Moi, voilà, typiquement, il m'appelle Monsieur Cordialement. Parce que je suis. Ah, mais c'est le sûr, je suis Monsieur Cordialement. Tu le mec qui envoie des mails, et donc évidemment, c'est qui ça. Termine par Cordialement.
Et nous, sur notre signature, il y a marqué Marseille Bébé.
Et moi, j'ai refusé qu'on rajoute Bébé après Marseille, parce que si j'envoie un directeur marketing, j'ai pas envie. Alors que peut-être ça peut plaire. Mais voilà, il y a Mais c'est, bien sûr, ça plaît.
On en l'a fait remarquer.
Oui, il y a des profils hyper créa, voilà. Mais bref, il y a vraiment cette complémentarité. Je pense que c'est une réelle force. Outre la légitimité et le réseau, c'est généralement, c'est vraiment une force. vrai. Et on le voit depuis des années.
Hein. Bah, c'est le pitch, j'ai l'impression aussi, ouais. qui plaît. Après, peu importe dans lequel domaine on se présente ou dans quel secteur, à chaque fois, le fait de dire un universitaire et deux anciens artistes... Mmh. Bah,
oui, c'est votre marque de fabrique.
Ouais, voilà, c'est un peu intriguant. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, ouais, ces trois-là. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Et voilà, c'est intriguant, ça interpelle. Et au final, ça nous permet d'entrouvrir en tout cas cette première porte. Et si derrière, on arrive à faire nos preuves, ben... on arrive à concrétiser derrière.
Et aussi l'adaptabilité, c'est qu'à un moment donné, que ce soit pour des artistes, comme je disais tout à l'heure, pour le monde socio-économique, pour les politiques, en fonction de la personne à qui on doit parler, on envoie des personnes différentes.
Même pour les rappeurs, c'est pareil.
Même pour les rappeurs, ouais, bien sûr, il y a des personnes avec qui il y a des accroches, d'autres, des accroches, mais dans un autre sens.
Des accros.
Des accros. L'art de la formule.
Et pour qu'on comprenne bien, du coup, vos rôles aussi dans la firme, chacun, du coup, qu'est-ce que vous faites exactement pour des personnes qui nous écoutent là et qui ne savent pas du tout, qui ne connaissent pas la firme, qu'est-ce que vous faites réellement chacun? Parce que j'imagine, du coup,
chaque jour.
Au départ, je pense, essayer de délimiter les tâches de chacun. Donc, Tariq a été plus positionné naturellement vers le côté administratif
et financier,
la TVA, la gestion du compte bancaire, les gars, on peut acheter ça, on peut pas acheter ça, bon bref, Tariq, c'est vraiment l'aspect
l'aspect chiant.
On a peur des mots, il y a des aspects chiants, mais t'es aussi dans la recherche de partenariat, ça c'est plutôt cool.
Oui, mais ça, donc je disais, voilà, la compta, les contrats, le suivi de la gestion de la trésorerie, etc., là oui, ça c'est vraiment, enfin, je suis vraiment,
c'est mon dada.
Ouais, c'est mon dada en fait, voilà. Zino surtout, mais Gilson aussi, sont beaucoup dans le et on va faire ça, et on va faire... Moi, je suis dans le mais. Mais, les gars, c'est
le
chaud.
Pragmatisme.
Mais, les gars, voilà. Et c'est un peu... Voilà, moi, je suis plus DAF, on me présente plutôt comme ça, mais Zino, je te...
Non, après, Gilson et moi, je pense qu'on a un peu le même rôle, qui est celui d'être un peu chef de projet. Je ne saurais même pas comment définir ce qu'on fait.
Plus,
parce
plus
que, voilà, un jour, on peut contacter... On va contacter une marque. D'un coup, je vais envoyer un message sur LinkedIn à un directeur de marque parce que je juge que c'est pertinent à l'instant T. On va discuter d'EA le lendemain avec un artiste. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment de règles. Les jours se suivent, ne se ressemblent pas. On ne sait jamais ce qui va se passer demain. À tout moment, on nous appelle et on nous dit, ouais, les gars, il y a ceci, il y a cela. Et voilà, on doit improviser. On doit y aller au talent à chaque fois. J'aime bien dire qu'on est des pompiers, on nous appelle pour éteindre le feu et on y va.
Et du coup, l'audace dont tu parlais au début pour vous lancer, elle est toujours d'actualité, quoi.
Ouais, presque envie de dire. Raconter même la façon avec laquelle on s'est lancé, qui était super cool.
Oui, faites.
Ouais. Pardon ?
Faites donc,
ouais. Ben là, on avait pensé à faire de la guérilla marketing. Voilà, on s'était renseigné, c'est une tendance, c'est une façon de faire de la publicité sans respecter véritablement toutes les règles. Voilà.
Ils vont nous attendre à la sortie.
Non, non, il n'y a pas. Non, c'est grand chose d'illégal dans ce qu'on a
disruptive,
fait.
Disruptive, sans les règles, voilà. Pas respecter les règles conventionnelles.
Voilà, c'est une façon au final de se faire entendre. On a vu des réalisateurs, par exemple, réaliser des fausses pubs pour Nike et derrière réaliser une vraie pub pour Adidas et se sont fait connaître avec cette fausse pub Nike, justement. Mmh. Et en voyant tout ça, on s'est dit que voilà, nous, on a le réseau, on a la capacité de pouvoir faire quelque chose. Et en réfléchissant, on avait l'opportunité d'avoir un jeu vidéo qui sortait en 2021, il me semble, c'était FIFA. On l'avait en avant-première. Alors, il fallait les acheter en Hollande. On les avait 6 mois avant tout le monde, on avait le jeu. Alors, je ne vous explique pas comment, je ne saurais même pas vous dire comment, mais on avait le jeu 6 mois avant et on s'est dit, on va hacker la jaquette et on va mettre la photo de Jules sur la jaquette et on va l'offrir à Jules. Et on va mettre notre logo. Et on a fait
mais
ça.
Mais un truc bien fait avec FIFA 21, bien personnalisé, etc.
Parce qu'on a des amis qui sont dans le jeu vidéo, qui nous ont accompagnés aussi dans la façon aussi de faire la chose comme si c'était vrai. On avait une vraie pastille, on avait un hologramme.
C'était pas Paint, quoi.
Non, c'était pas Paint. Non, c'était ça avait l'air vrai.
J'ai grandi dans les années 40.
Vous pouvez respecter la génération, s'il vous plaît.
On a grandi aussi dans les années 90.
On a tous grandi dans les années 90. Oui.
Et au final, donc non, c'était pas Paint, c'était vraiment archi bien fait. On avait vraiment l'impression que c'était une collaboration avec EA Sports. Et on a décidé d'en offrir une à Jules. On savait que Jules était fan de FIFA. On lui a dit, on a un FIFA pour toi. Et incroyable, il a partagé ça sur sa story. On a dit, ok, bah on va faire la même chose pour SCH. SCH, pareil, il est venu, merci Mégaté. De fil en aiguille, tout le monde avait des rappeurs qui nous envoyaient des messages. Et moi, j'ai pas mon FIFA. Et on a fait le FIFA quasi pour tout le monde. Je crois qu'on a fait un FIFA pour Florent Pagny. Ça n'avait aucun sens.
Ça, par contre, j'ai toujours pas compris à ce jour. Je vous dis la vérité. Je vous dis, des fois, il y a des discussions.
Les enfants de Florent Pagny nous ont demandé un jeu, on a dit ok, vas-y, on fait pour Florent Pagny. Et ça avait fait tellement de bruit que des médias carrément avaient repris l'info. Jul vient de recevoir son FIFA.
Personnalisé.
Mais il n'y avait aucune collaboration entre FIFA et Jul. Et derrière, il y a toujours marqué ceci l'affirme, etc. On se posait la question, est-ce qu'il faut mettre notre logo? On va se faire taper sur les doigts. Mm. Et on a mis notre logo et honnêtement, ça nous a fait connaître, je pense, puisque derrière, ça nous a ouvert la porte à plusieurs opportunités. Alors pas FIFA, pas eSports, puisque l'année d'après, Jul est devenu ambassadeur FIFA. Alors je dis pas que c'est grâce à nous.
Mais on n'était pas, c'était pas contre-productif ce qu'on a fait.
Non,
voilà,
pas
on va
du
dire
tout.
Ça comme ça.
Pas du tout. Moi, je pense même que c'était très smart pour l'époque et ça nous a pas coûté grand-chose. Et ça nous a permis de nous positionner naturellement comme cette agence qui représente les marques auprès des artistes. Mmh. Et donc, de fil en aiguille, on a eu un article sur GQ Magazine. Ils avaient fait un spécial Marseille. Ils avaient fait un spécial Marseille. Et pareil, ça fonctionne comme ça, j'ai l'impression. Hein, les gens parlent et derrière, t'as des producteurs de cinéma qui nous ont appelés.
Suite
à l'article GQ, je suis sur Marseille. Est-ce qu'on peut se rencontrer? J'ai vu ce que vous faisiez. J'aimerais bosser avec vous. Mmh. Et aujourd'hui, on bosse avec lui sur des projets Netflix ou Prime ou autre. Et voilà, et tout ça, c'est parti d'une jaquette, quoi. Faite sur Paint.
Et la place, je me disais, la place de la musique, là, dans votre vie, est-ce que, justement, vous êtes des anciens, du coup, ce que tu disais, Zino, artiste, mais bon, peut-être que vous l'êtes toujours, je pense, mais est-ce que, je sais pas, toi, peut-être, Gilson, là, vu que t'es en train de produire un artiste ou autre, est-ce que vous avez pensé, et toi aussi, Tariq, ton lien au rap, à la musique?
Alors, moi, je ne sais pas rapper. J'ai tenté, il fut un temps, mais c'était en seconde, et je me suis arrêté très vite, au bout d'une semaine. Donc, non, comparé.
Semaine, cool.
Mais, après, je sais, le lien avec la musique, en fait, c'est en filigrane. Hein.
De toute façon, on évolue quand même dans ce milieu-là. Donc là, pour nous, l'intérêt, c'est plus réellement d'être sur le devant de la scène. C'est plutôt d'être derrière et d'aider les artistes à se développer. Et comme le disait Zino tout à l'heure, c'est de leur permettre d'éviter de faire certaines erreurs. Donc on est beaucoup plus... Moi, je me sens beaucoup mieux à ma place derrière, à faire de la DA, de la direction artistique. Donc je suis toujours un peu dans la musique. Donc on m'envoie... Enfin, il y a le rappeur Missan qui, de temps en temps, m'envoie ses titres, me demande mon avis. Je lui fais mes retours. Il les prend en considération ou pas, mais assez souvent il écoute parce qu'il sait que voilà, on reste bienveillant. Hier il était au bureau, il est venu nous parler un peu de ses problèmes avec certains labels, certains contrats qu'il a pu signer à certains moments. Donc voilà, nous on est là. En réalité, on est toujours dans la musique et le seul qui arrive en vrai de vrai à nous faire encore rapper, c'est Jul. Donc il y a, on a participé au classico organisé il y a 2 ans et là.
Juste pour rappeler, classique organisé, c'est dans la continuité du très organisé que tout le monde connaît, hein, 50 rappeurs marseillais. Jul, un an ou 2 ans après, il a proposé le classico organisé. C'était 157 artistes, dont moitié parisien, moitié marseillais. Et Zino Gilson.
On a fait partie des invités. Ouais.
Et n'ont pas à rougir de leurs prestations. Ils ne vous le diront pas, mais moi je le dis à leur place.
Non, mais c'est vrai, voilà, quand Jul nous invite, on le fait pour lui et pour nous aussi, mais c'est difficile de refuser. On trouve ça, on voit ça plus comme un jubilé. Et au final, on se retrouve dans le groupe WhatsApp où il y a tous les artistes. Pareil, moi je préviens Jul, je vais rajouter tout le monde, moi. J'ai rajouté Maître Gims, il mettait tout le monde dans le groupe. Et après, moi je le contacte, je dis salut, j'ai une agence. On est dans le même groupe WhatsApp. Et au final, derrière, ça, il t'ouvre la porte, puisque j'ai l'impression que Jul fait ça pour ça aussi, tu vois, pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Et voilà, t'as même des artistes qui sont pas contents, mais pourquoi tu as mis mon numéro et tout, mais. Lui, il ne se pose pas de questions. Voilà, il fait un groupe WhatsApp, il met tout le monde, les connus, les moins connus, et voilà, faites votre salade. Et je trouve ça génial.
Et la firme, l'agence La Firme, est-ce qu'il en existe d'autres en France ou elle est un peu unique en son genre, ce que vous faites?
Ce qu'on fait?
Ouais.
Il commence à avoir des agences qui ressemblent un peu à ce qu'on fait, mais qui. Avec des anciens artistes.
Ouais,
je suis pas sûr.
Anciens artistes universitaires, il n'y a pas.
Je suis pas sûr, non.
Je vous confirme.
Mais qui ont le même. Cœur de métier, qui font du placement de produits,
il y en a.
Mais qui ont notre profil, je pense pas.
Non,
et après, parfois, il y a les majors, les maisons de disques aussi qui développent leur secteur brand, leur secteur branding, donc leur secteur marque. Donc, c'est des majors avec qui parfois on va collaborer, parfois on va être entre guillemets en compétition avec elles parce qu'elles vont développer évidemment leur propre secteur marque. Mais sinon, qui sont exactement sur le même segment de marché, on va dire ça comme ça, que nous. priori.
Ça, c'est l'ADN surtout.
Non, ADN, en vrai, c'est sûr.
Parce que c'est ça que j'avais demandé. Qu'est-ce qui fait la différence avec s'il en existe d'autres entre vous et elle? C'est votre ADN.
Ben, la différence, surtout pour les grosses agences parisiennes, c'est que assez souvent, les personnes qui travaillent dans ces agences-là, elles sortent de grandes écoles de commerce. Et elles ne parlent pas forcément le même langage que les artistes. Et assez souvent, quand elles vont appeler les artistes, ben, ils ne vont pas se lever le jour de la campagne ou ils ne vont pas poster en temps et en heure. Donc il y a plein de problèmes qui peuvent faire qu'à un moment donné, ben, les gens ne se comprennent pas parce qu'ils ne viennent pas du même milieu.
Pas les mêmes codes.
Ils n'ont pas les mêmes codes, pas la même façon de... Ben voilà, ils disaient, les artistes se réveillent à 14h, donc ça pour...
Pas tous, certains pas 13h30. Certains 13h30.
Mais donc voilà, nous on sait comment parler avec eux. Ils ont aussi, ben y a une certaine confiance qui est naturellement établie, parce qu'ils savent qu'on sait par où ils sont passés, par où ils vont passer, et qu'on va, nous en tout cas, essayer d'être bienveillants à chaque fois qu'on va leur proposer des projets. C'est pour... continuer à les faire grandir et à les aider à se développer et surtout à éviter de faire les erreurs que nous on a pu faire dans le temps, quoi.
Et même pour compléter, parfois dire les choses aux artistes.
C'est ça.
Comme tu disais, des salariés de maison de disques, parfois ils n'osent pas trop parce que certains artistes, bon, on va pas les citer, mais qui vont avoir un gros caractère, un gros ego. Et voilà, déjà vu Gilson ou Zino en train de dire non, mais là c'est pas comme ça, là tu vas pas dans le bon sens, tu vas pas dans la bonne direction. Et ben, encore une fois, de par ce même ADN, évidemment, l'artiste va beaucoup plus facilement, je ne dis pas qu'il nous écoute tout le temps, non. Donc va beaucoup plus facilement nous écouter que quelqu'un qui n'a pas les mêmes codes, qui n'a pas la même manière de réfléchir parfois. Donc c'est vraiment une force.
Et vous travaillez beaucoup avec des artistes nationaux, du coup.
Oui.
Est-ce que vous avez envie, ou pas d'ailleurs, de travailler avec des artistes plutôt à l'international?
Il n'y a que Tariq qui gère l'anglais, je crois, aussi.
Ouais, l'anglais, encore.
Portugais, là, non.
Ouais, là, c'est... là, il y a déjà beaucoup d'autres choses à faire sur le territoire. On a la francophonie, on bosse avec des Québécois. Voilà. On a quelques contacts avec le rappeur marocain Grand des Toto. Donc, ça, avec ses équipes, ça, il n'y a rien qui a été fait factuellement, mais c'est des contacts qu'on peut avoir, ou d'autres artistes. Hein.
Tiff,
qui est un super artiste, pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment, que ce soit Zamdan aussi pour le côté marocain, marseillais quand même, mais Tiff pour le côté plutôt algérien. Vraiment, n'hésitez pas à aller écouter, c'est vraiment... Et ça, c'est des artistes avec qui on bosse. Il y a des Québécois aussi, Rims, avec qui on bosse, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire en France. On a beaucoup parlé de Marseille, mais il y a des rappeurs parisiens, des rappeurs avrés. Il n'y en a pas beaucoup là-bas, donc ils sont facilement identifiables. Ils sont facilement identifiables, toute l'équipe de Medine, etc. Donc avec qui on bosse, l'équipe de Fianso. Voilà, c'est des artistes.
Et le fait que vous soyez à Marseille, ça vous aide ou ça vous joue en votre défaveur? Parce que je suppose que du coup, beaucoup de choses se passent à Paris. Bien quand sûr. Même. Donc,
au départ ouais, c'est une difficulté. Ouais, hein, une au difficulté, départ, il fallait monter à Paris toutes les semaines. Il fallait monter à Paris, rencontrer les directeurs d'agence, les directeurs de marque. Tout se passait à Paris. Et finalement, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Alors, est-ce que c'est après le confinement?
Possible. Hein,
bon, après, tous les Parisiens sont descendus à Marseille aussi, donc c'est plus facile.
Non, mais voilà, c'est presque exotique aujourd'hui de venir de Marseille. et j'ai l'impression que ça plaît aussi. On rencontre des grandes agences parisiennes qui ont toute l'envie de venir s'installer à Marseille. Et quelque part, j'ai l'impression que de parler avec nous, ça leur donne un peu de soleil, de vitamine D. Et voilà, ils sortent toujours d'un rendez-vous avec nous agréablement, de façon agréable. Et voilà, ils sont contents. Et donc, ça nous permet aussi de continuer à bosser, continuer à nous développer. Mais j'ai l'impression que c'est plus tant un frein que ça aujourd'hui de venir de Marseille, sachant que beaucoup de réunions se font en visio. Et je pense vraiment que c'est post-confinement, le monde a changé. Voilà. Il n'y a plus trop de règles, c'est plus les mêmes règles, et que tout est possible.
C'est carrément un avantage. Vraiment, aujourd'hui, c'est un peu l'agence marseillaise. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Quoi. Alors qu'au début, oui, le temps de comprendre comment ça fonctionne, d'être présent, là maintenant, c'est une vraie force.
Ouais, ça vous permet peut-être de vous démarquer, alors que si vous étiez à Paris, vous auriez
d'être noyé dans la masse. Je pense qu'on aurait quand même réussi à se démarquer d'une manière ou d'une autre.
Peut-être.
Et donc on comprend votre ambition un peu nationale et peut-être au-delà des frontières du territoire. On comprend aussi que vous avez un grand attachement à la ville de Marseille. Qu'est-ce que le rap de Marseille dit aussi de la ville? d'après vous, des quartiers, des gens, de la ville?
On fait une deuxième émission dans la foulée.
On
a 5 minutes. Place aux paroles aux artistes.
Qu'est-ce que ça dit de la ville? Je sais pas s'il y a... Je sais pas quoi répondre à ça. Est-ce que c'est pas aujourd'hui le rap qui a mis aussi d'une certaine manière la lumière sur Marseille, une nouvelle fois? Je pense que Jules et même le projet Bande Organisée a joué beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, il y a plein de Parisiens ou de personnes qui viennent d'autres villes en France qui s'intéressent à la ville grâce au rap. Mmh. Donc je pense qu'on est un peu la vitrine en fait, de ce qui est Marseille aujourd'hui. Et dans ce que ça raconte quand même ce qui se passe dans les quartiers populaires. C'est quand même une ville qui est assez pauvre, on va dire. Et il y a pas mal de choses qui se passent, qui sont des fois bien, des fois pas bien. Mais il faut en parler, il faut qu'il y ait des gens qui puissent faire entendre la voix de ces personnes, issues des quartiers populaires, à qui on ne donne pas souvent la parole. Et je pense que le rap est une bonne vitrine pour ça.
Et aussi, juste pour préciser, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas un rap marseillais, il y a vraiment une très grande hétérogénéité, une très grande diversité qui vont raconter, chacun de ces artistes ou de ces univers vont raconter une facette différente de Marseille.
Leur Marseille,
le côté festif, le côté beaucoup plus mélancolique, parfois un mix des deux. Donc c'est assez riche.
Je me demandais justement, vu que vous étiez dans le rap avant, est-ce que vous avez vu une évolution là, avec ces dernières années, de ce qui est dit à travers,
le rap après... Le rap marseillais reste quand même influencé par les autres formes de rap dans le monde. Donc assez souvent, là, il y a un phénomène musical qui s'appelle la drill, où l'idée, c'est quand même de raconter un peu la guerre des gangs, la guerre des quartiers. Donc assez souvent, c'est ce qu'on va raconter quand on rappe sur de la drill. Mais après, je pense pour moi, le truc qui aujourd'hui peut être une fierté pour nous, c'est ce que Jul a réussi, j'en reviens encore à cet artiste-là, mais c'est ce qu'il a réussi à apporter dans le paysage du rap mondial même. C'est qu'aujourd'hui, des personnes font du type Jul, ce qu'on appelle du type Jul. C'est le style d'instru qu'il a inventé tout seul dans sa chambre. Il y a des personnes qui le font en Italie, en Suède, en Belgique, en Espagne. Et ça, en France, c'est... En tout cas, dans l'industrie du rap, c'est du jamais vu. Donc, on a apporté une couleur, une façon de raconter des histoires, notre quotidien, avec notre façon de parler, notre argot. Et voilà, il y a même des Parisiens qui se mettent à faire du type Jul, des Lyonnais qui se mettent à faire du type Jul. Donc voilà, nous, on est assez fiers de ça, quoi. Je sais pas si vous avez autre chose à...
Oh, c'est très bien, c'est très clair.
Déjà tout dit.
Bon, on arrive en fin d'émission. Déjà, c'est passé vite. L'écoute comme élément essentiel de nos relations humaines, indispensable pour mettre du sens dans sa vie et nos aspirations, et puis mettre un peu de lien entre nous. Merci beaucoup à vous trois d'avoir honoré notre invitation.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et on va finir l'émission en musique. Vous nous avez choisi un son, si vous voulez nous le présenter. On va écouter.
Alors c'est La Provence, c'est l'un des derniers titres de notre album.
C'est ça.
Voilà, c'est l'un des morceaux qui a fait le plus parler de nous, j'ai envie de dire, juste avant qu'on décide de tirer notre révérence.
Oui, justement, vous vous appelez comment?
Le groupe. Oui. Révolution Urbaine. Alors ça fait peur comme ça, mais c'est cool.
C'est que du bonheur.
On vous donne rendez-vous en tout cas mardi 7 mai prochain pour la prochaine émission. On vous souhaite une belle écoute et une très belle soirée.
Merci
à
beaucoup.
Merci.
Au revoir.
En route vers le progrès. Une politique d'un autre âge à bord d'un porte-avions qui a peur du naufrage. Marseille et ses allures trop calmes, la capitale de la fracture sociale. De nos jours, faire de l'argent c'est fastoche. Poum poum, un homme est mort pour une sacoche ou pire pour une catote. On vit sur le fil du rasoir, on tiendra pas longtemps mais tout le monde s'accroche. Ils montent au créneau une fois que le sang est propagé. Mais les requins n'ont pas besoin d'apprendre à nager. Ici on en a rien à foutre de leur ministère. Plus vicieux qu'une boutique de fleurs face au cimetière. J'ai voulu planer, les stupéfiants sont prohibés.
Alcool et suicide autorisé. La colombe est morte, il nous reste plus qu'à tout niquer. Étant donné qu'on rentra pas tous dans leur comité, vous êtes fous devant qui vous prosternez-vous. Jeune mouton, le berger est pire que le loup. Tu votes à gauche, hein, t'es brave, t'es un rebelle. Avec ton smic, t'es un esclave moderne. Je m'en bats les couilles d'être sur la liste. Je fais juste le vrai travail d'un journaliste. Je dois taffer plus dur, je suis mal vu comme un salafiste. Les petits n'auront pas de futur, mais ils pensent que c'est ça la vie. Ils parlent d'art, mais veulent savoir qui vendent le plus. Le savoir est une arme, ma culture vous tire dessus. Exilé partout, depuis l'apartheid. On vient juste récupérer ce qui nous appartient. Celui qui braque taf à BNP, ils font exploser l'audimat sur la TNT. Ils parlent de Marseille, mais n'y ont jamais mis un pied. Et y'a comme un goût de FN à l'UMP.
Le bâton du berger face aux brebis égarés. Au pays du coq, tous les képis crèchent au poulailler. À croire que les États s'unissent pour mieux nous manier. Pendant que ceux qui nous dirigent crient Ben Ali Boumaïe. Marseille, capitale de la calache russe. Braquage, armes, arnaque, Dallas pute. Barrage, ham, ça gratte la carte à puce. On se croirait à Gaza en matant Canal Plus. Les mafias d'Asie, les bandes organisées. Les Roms veulent légaliser le vol d'organes, tu sais. Les skins et les nazis font leur bail discret. Le shit et l'extasy t'emmènent à Walt Disney. Les écrits des journalistes, tu glisses. Que si t'es Souraya Bon Ali, le fisc te surveille, demande à Mélanie. Ton fils sera victime d'une anomalie. Ouvre les yeux mon ami, une femme nue en Roumanie. Des détenus au Mali, des guerres et des manifs. Un peuple nourri au maïs, ici ça fume la weed. Personne joue à la Wii, que des guns et des calibres qui tirent pour fêter l'Aïd. Tu tease, tu smoke, époque no life. Tu sniffes la coque tout en sachant que la drogue t'aura. Bernard Tapie pour sauver le championnat. De Marseille à Manchester, demande à Cantona. Au chômage avec un doctorat. Tu seras pas la mère de mes gosses si tu mets du gloss, connasse. Un salaire en toc face à ton boss, gros lard. Tu veux faire le tour du globe, faut que tu bosses, connard. Quand l'huissier fait toc toc face au gosse normal. Soit disant c'est de notre faute, vas-y pose ton arme. J'écris sur mon bloc notes ce qui cause ton mal. Ce que je raconte, je l'ai lu dans le journal.
Clic, clic, clac, clac. Voici les symphonies qui font marcher au pas. Marseille s'embrase, c'est ce que disent les médias. Depuis que la pauvreté a balayé leurs lois. Discrimination, un affront à la nation. Nos habitants ne sont pas dans leurs habilitations. On vit que pour la réputation. Il manquerait plus que l'un d'entre nous un plastique et un fourgon. Tu veux savoir ce que j'en pense? Rien vu que je marche avec les mecs qui font flipper la France. Connais-tu l'odeur de l'acide dans un bloc? Les seringues mortes, à 8 ans je côtoyais les tox. Le proc distribue les peines comme du pain. Et moi je termine le mois au menu larcin. Ici bas tout va bien cousin. Et le centre-ville s'expatrie devant le guichet parisien. Le nord règne sur le trafic, c'est la loi du métallique. Saluer les parias en provenance d'Afrique. Le sud n'a plus rien de magique, balistique sur balistique. Et ta daronne croit toujours que t'es le plus sage de l'équipe. C'est soit t'es cruel, ou soit la truelle. Et la crasse a recouvert toute la beauté de nos ruelles. Le duel entre mafieux et politique. Où lequel d'entre eux battra des records niveau banditisme. Bloqué dans l'escalier, va savoir tout ce qui nous échappe. Je suis l'allié des damnés. Donc on t'invite à ranger ta plaque. Toute la journée dans les vagues. Pas leur faire croire qu'on a bobé toutes leurs blagues. Remballé. Je suis vacciné, on n'est pas allé.